Nous sommes avec Émile, chanteur du groupe Beyond the Sticks. Nous sommes ensemble pour la sortie du nouvel album Stigma. Bonsoir.
Bonsoir Xavier.
Nouvel album, qu'est-ce que tu peux nous en dire de prime abord de ce nouvel album? Et puis après je te donnerai mon sentiment.
Du changement, gros changement. C'est, on va dire que par rapport à notre précédent album, on pourrait peut-être parler d'alter ego. Il y a eu une révolution, moi je trouve musicale, une révolution aussi dans l'expression des thématiques utilisées, même si les thématiques de l'album restent relativement sombres comme elles l'ont toujours été, disons qu'elles sont beaucoup plus engagées, manifestes et explicites, chose qui était peut-être beaucoup plus dissimulée à travers une écriture plus métaphorique. Après, je pense que le côté progressif, plutôt expérimenté par le passé, se prêtait davantage à ce genre de rhétorique, alors que maintenant on est sur un album plus court, plus incisif, et de fait je pense que il fallait que les paroles s'y prêtent aussi, mais tout ça s'est fait très quasiment naturellement. Disons qu'il y avait réellement une envie de proposer autre chose, pouvoir peut-être un petit peu se surprendre, mais aussi partager quelque chose de plus, encore plus fort avec le public. Je pense qu'on est un groupe qu'on apprécie pas mal pour ses prestations live, et disons que là on a un album clairement fait pour, je pense.
10 morceaux pour 35-40 minutes de musique?
Je crois que c'est moins que ça, je crois que c'est 27 exactement.
Très, j'en parlais à quelqu'un qui n'écoute pas des choses, alors pas extrêmes comme vous faites, mais bien rentre dedans quand même, qui écoute des choses plus planantes. Je lui disais sec et agressif, il me disait ça colle bien, et en réécoutant l'album, je trouve qu'en fait, il y a un petit côté dansant aussi.
Ouais, c'est le côté groovy, oui, non, c'est vrai. Côté groovy et rock'n'roll qui est, je pense, un peu plus exacerbé que sur les précédents. Oui, c'est vrai que c'est un album assez sec. Les premières chroniques qui tombent sont assez, plaisantes déjà à lire. Alors, on a eu tout, hein. Pour l'instant, on n'a que 4 chroniques de tombées. Ce qui est marrant, c'est qu'on, en fait, finalement, on découvre des gens qui ont apprécié le premier album. Alors, c'est pas un album qui a, je trouve, qu'il y a eu un super accueil par l'étranger. Et là, on a eu, je pense, le seul fan de l'étranger qui nous a fait une très très mauvaise chronique de ce nouvel album. Je pense qu'il a du mal à comprendre le revirement. Et par contre, très bel accueil. Pour l'instant, en France, 3 belles chroniques. Metal France, on a eu Heretic Magazine, et puis je sais plus quel autre webzine. Bref, enfin, en France, pour l'instant, un très bel accueil. Même peut-être un peu trop encensé, je sais pas. Disons que ça fait bizarre en fait d'être aussi bien accueilli pour l'instant sur quelque chose qui finalement, je pense qu'on le couvait sans le savoir, et ça fait vraiment plaisir d'être reçu de la sorte. Après maintenant c'est à nous de faire le job en live, hein, parce que voilà, ça c'est ce qu'il y a sur CD, mais disons que c'est quelque chose clairement que je pense pouvoir, et nous pensons pouvoir défendre peut-être plus habilement, même si finalement, au niveau de l'exécution, ça demande un travail pas plus important, mais différent. C'est-à-dire que le premier album demandait énormément de précision, de maîtrise de tout. Là, disons que la précision doit être au rendez-vous, mais c'est surtout d'un point de vue physique qu'il faut être capable d'encaisser, cette espèce de vague. Parce que ce que nous disent les chroniques, finalement, c'est que premier abord, c'est sec, on se prend un pavé dans la gueule, et après coup on se dit « Ah ouais, mais en fait, le pavé est relativement bien composé et il mérite d'y jeter plusieurs fois une oreille, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas finalement. » Et nous, c'est vrai que ça nous paraît tellement digeste et violent à la fois, ça peut paraître contradictoire, mais disons que le côté technique, on l'a pas forcément perçu en fait en écrivant cet album. On pensait vraiment faire quelque chose de beaucoup plus digeste que ce qu'on avait fait avant. Et finalement, malgré nous, on se rend compte qu'il y a toujours cette empreinte un peu expérimentale qui est présente, qui est pas là pour nous déplaire, et je pense pas non plus pour déplaire aux gens qui nous suivent depuis le début. Je pense que les vrais fans du début qui ont cerné l'essence de Beyond the Six se retrouveront dans cet album. Je pense que par contre les férus metalhead qui sont vraiment fans de prog et de mélodie pourront se retrouver lésés, et peut-être quoique, parce que finalement peut-être que la rencontre live avec ce nouvel album se passera bien. S'ils s'arrêtent juste au CD, cette marge du public-là pourrait se retrouver un peu lésée. Je pense, mais je suis sûr de rien.
Plus classique dans un sens, dans l'exécution, en tout cas peut-être plus direct en première écoute, ça c'est sûr. Alors il y a toujours le chant forcément bien saturé, il y a toujours les beatdowns qui vont bien. Et derrière justement, il y a tous ces petits changements. Des fois c'est la batterie, des fois c'est la guitare qui vont se mettre un peu en avant. Il y a même, vous êtes payé le luxe, façon de parler, d'une petite intro au piano. Enfin voilà, c'est des petits trucs qui font que ça change quand même un peu et ça oblige à tendre l'oreille justement sur ce qu'il y a derrière la première vague, comme tu disais.
Ah, complètement. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des choses, on s'est permis des choses dans cet album qu'on serait peut-être pas permis avant. Enfin, l'intro de Danse Macabre, la première fois que je l'ai écouté, que Victor, notre arrangeur et guitariste lead, nouveau guitariste lead, nous a proposé ça, j'ai fait « Wow, c'est bizarre ». Et après coup, je fais « Ouais, mais ça se tente ». Ça se tente parce que ça paraissait presque naturel, en fait. Quand on l'a écouté, il n'y a personne qui a posé de veto là-dessus. On s'est dit « Ouais, c'est surprenant, mais c'est cool, ça passe ». Pareil, quand on a fait le featuring avec Sly de Danforce, on lui a laissé carte blanche. Et à la première écoute, on a fait « Oh, putain, on se pensait pas qu'il allait partir autant en live que ça ». Et puis finalement, on le réécoute, et puis on commence même presque à connaître par cœur son flow, ses paroles, et ça passe très bien. Il y a plein de petites surprises dans cet album, et plein de petites aussi influences, qui, je trouve, font de cet album, pour moi, un espèce de... comment dire ? Un album influencé clairement par le metal hardcore des années 90, avec des influences diverses et variées qui, je pense, vont du black metal au death old school. On en parlait avec Damien sur Hellbanger Show hier soir. Il nous parlait de la fin de Decima. Il fait ça sonne clairement death mellow. Moi, je pense pas, mais disons que ce qui est appréciable, c'est que des personnes avec une culture musicale relativement dense ils trouvent plein de choses. Et c'est cool, parce que on n'a pas envie d'être une pâle copie de ou un pastiche de un tel. On est conscient qu'on révolutionne peut-être pas grand-chose, mais on est nous, on a pris un risque, pleinement assumé. On verra comment réagira le public vendredi au Temps Machine. Disons que nous, on prend du plaisir à le jouer en répétition. On transpire, comme je dis à chaque fois, parce que c'est dense, c'est vraiment physique cet album, et on s'en lasse pas. Enfin, moi je m'en lasse pas, et ça fait du bien, parce que c'est vrai que je cache pas que certains morceaux de Leviathanima ont très rapidement, je pense au bout de 20 dates, pu nous lasser, ce qui nécessitait de fait pour nous une écriture très rapide, d'un nouvel album pour pouvoir proposer autre chose. Pour les rares personnes qui nous ont vus sur nos 15-20 dernières dates, c'est vrai qu'on proposait déjà des morceaux de Stigma en exclusivité.
Du coup, on peut dire qu'il n'y a pas deux morceaux qui se ressemblent. Alors, sans parler des intros, tu venais de le signaler, la surdance macabre, comme je te disais avec le piano, mais si on prend DTN ou Poison Ivy, on a clairement des ambiances qui sont différentes. Vous avez réfléchis-vous à ça, à donner... Alors, je dis pas que vous vouliez que tel morceau sonne un peu de telle façon, mais est-ce que vous avez bien fait attention, justement, à proposer un album avec 10 morceaux qui, façon de parler, pourrait être une sorte de best-of, en fait, avec un style pas particulier pour chaque titre, mais vraiment donner une couleur spéciale à chaque morceau?
Alors, sincèrement, pas du tout. Moi, j'ai même pensé au début qu'il y avait un fil rouge trop permanent, en fait, que les morceaux s'enchaînaient presque trop bien les uns avec les autres et peut-être se ressemblaient. Il y avait du relief différent, mais de là à dire que chaque morceau avait une identité différente, au premier abord, j'aurais dit non. Avec du recul, maintenant, peut-être, mais... disons que ça s'est plutôt bien composé tout ça. C'est vrai que le choix des morceaux pour aller en studio, on avait 12 morceaux, on en a retenu 10. On n'a aucun regret d'avoir laissé les deux autres sur le parvis. Hein. Clairement, ce qui n'était pas le cas pour Leviathanima, où là il y avait beaucoup plus de discussions, et pourtant c'est un album beaucoup plus long. Et non, là, clairement, on arrivait avec 10 morceaux, on savait que c'était ces 10 morceaux, on ne savait pas exactement dans quel ordre. Plus j'écoute cet album, plus je me dis que la recette est là. Enfin, vraiment, c'est des morceaux qui vivent ensemble, qui s'enchaînent bien les uns derrière les autres, même en live, sur les futures setlists, on arrive à mélanger la chose, ça se tient, ça se tient même plutôt bien, c'est assez surprenant. Après, c'est vrai que ce qui est peut-être plus difficile, c'est de faire vivre ces morceaux avec les anciens, et c'est une excuse sans en être une, mais disons que cet album est incisif, et cet album aussi va marquer certainement un certain tournant dans notre histoire, et je ne pense pas qu'on rejouera des anciens morceaux avant un moment, et même peut-être plus, je ne sais pas, je peux pas me prononcer là-dessus, mais disons que cet album est arrivé tellement un peu, enfin de manière violente aussi, il y a eu pas mal de réflexions, même sur éventuellement changement du nom du groupe, enfin il y a eu vraiment des gros questionnements à ce niveau-là, parce que on le voulait, cet album, mais on savait pas si lui laisser le nom de notre groupe pouvait coller. On savait pas comment il serait reçu, vraiment. Et finalement, ça nous rassure, parce que on était unanime pour garder le nom du groupe au final, même si le visuel a changé, parce qu'on pense avoir pas mal avancé. Il y avait Hérétique Magazine qui parlait d'album de la maturité, il faut peut-être pas exagérer, hein. On est jeune, hein. Je veux dire, on en est qu'à 7 ans, en vrai ça fera 7 ans, je crois, au mois de juin. Disons que oui, il y a eu une certaine introspection, une certaine réflexion qui avait peut-être moins avant, peut-être. Enfin, disons que ça peut paraître fou, il y a des morceaux sur lesquels on a passé peut-être beaucoup moins de temps, mais dans l'enchaînement des chansons, dans les arrangements, des choses comme ça a été pas mal réfléchi pour que justement il y ait cet aspect assez compact, comme tu disais.
D'où le titre de Stigma pour l'album par rapport à ce que tu disais.
Ouais, c'est clairement un tournant dans notre histoire. Et bah, disons que c'est un album qui arbore pas mal de choses, qui marque la société. Comme des stigmates. Bon, après, c'est vrai que stigmate, on voit l'aspect religieux en premier lieu. Après, on vit aussi dans une ère ultra symbolique. Enfin, le religieux prend énormément de place, est revenu vraiment à fond sur le devant. Je pense que c'est volontairement provocateur de notre part d'avoir choisi ce nom-là aussi. On voulait un nom court, un nom qui tranche, qui scinde avec Leviathan Imac que personne n'arrive à dire. Et clin d'œil, mais c'est vrai. Hier soir, je reprenais encore Damien sur Radio Béton qui s'en sortait pas. Et voilà, disons que oui, il y a cet aspect-là de trancher. Et oui, c'est vrai que c'est un certain tournant, je pense clairement, dans l'histoire du groupe et qui présage du bon, je pense. En tout cas, on verra comment réagira le public en local. Je ne suis pas persuadé que le public, enfin, notre public local soit le plus difficile, sans aucune prétention, à mobiliser. Je pense quand même qu'il y en a qui vont être surpris. Quand même.
Tu disais un petit peu moins de métaphores, et pour autant, dans les titres qui sont choisis, je pense notamment à des morceaux comme Lightmare, vous jouez quand même encore un peu sur les noms.
Ouais, complètement, mais ça me lâchera jamais. C'est vrai que je suis féru de jeu de mots. Je sais pas si. Enfin, je sais, il y en a peut-être d'autres qui sont permis ce genre comment dire, de jeu par le passé. En tout cas, oui, ça me paraît important pouvoir continuer à imbriquer des petits messages cachés. Je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'une chanson écrite et que personne ne puisse s'approprier, parce qu'en fait, tout est là, tout est posé. C'est plaisant de, je sais pas, par exemple, d'écouter Jim Morrison et de relire ses textes et dire moi je comprends ça, mais en fait je suis même pas sûr que ça veuille vraiment dire ça. C'est vrai qu'on a des titres plus explicites qui défendent des causes clairement plus manifestes que par le passé, mais il y a toujours une part à la libre interprétation. Ça me paraît important et je continuerai en tout cas à écrire de la sorte. Mon Lightmare, pour l'histoire, c'est le dernier titre que j'ai écrit. Et j'avais l'impression d'être un petit peu à court d'inspiration. Bah, contre toute attente, finalement, c'est un des titres que pas mal de gars ont apprécié dans tout l'album, alors que je me suis laissé aller sur des parties plus rappées. Enfin, ça va être bizarre quand on reprend la discographie de Billon d'avant, mais bon voilà, je suis pas un fin lyriciste, je suis pas un fin, j'ai pas un flow, je dirais, de dingue, je le sais, mais j'ai voulu me tenter à ça, et en même temps le hardcore et le rap ont ont une base commune, donc c'est vrai que pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis bah, c'était c'est une belle histoire, c'est cette chanson-là.
Tu parlais de featuring, c'était important d'avoir des invités, et je pense que ça va même au-delà de ça, puisque vous avez demandé à des amis et des fans de faire les chœurs aussi sur l'album.
Oui, bah, les featuring, bon, c'est vrai que moi j'aime beaucoup ça, peut-être un peu trop, je sais pas, mais disons qu'il y en a 3 sur 10 chansons. Paul, bah, c'est un copain qui chante sur Neo Oblivion, donc c'est vrai que ça me paraissait important. C'est l'ancien chanteur de April's Possession. Pour ceux qui les ont vus jouer à Tours, ils ont dû jouer, je crois, 2-3 fois. C'était du deathcore mélodique. C'est vrai que maintenant, il performe plutôt dans un registre metal hardcore. Il vient juste d'intégrer un groupe canet dont, malheureusement, le nom m'échappe. Désolé, Paul. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec lui. Enfin, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Et ça me paraissait important de pouvoir partager ce titre, aussi sombre soit-il, avec sa voix sombre et rauque. Et bah sinon on a une chanson plus punk hardcore, celle-ci j'ai tenu à la partager avec Romain de Real Deal, parce que Real Deal c'est un groupe qu'on prend plaisir à faire jouer avec Riposte, et puis c'est un groupe qui marque aussi je dirais le retour du hardcore un petit peu à Tours, plutôt version groovy, dansante, punk, et c'est aussi une manière pour nous de montrer que on fait partie aussi de cette marge-là, n'en déplaise à certains qui nous catégorisent plutôt death. Je pense qu'on n'arrivera jamais à nous coller la bonne étiquette, et c'est peut-être pas plus mal au final. Et puis bah, Sly, le chanteur de Danforth, là c'est un honneur, on peut carrément le dire, qu'il a accepté de poser sa voix sur cette chanson sans trop se poser de questions. Enfin, ça s'est fait très naturellement, et c'est vrai que bon, autant avec Paul et Romain, on a pu faire ça en studio ensemble, donc c'était un partage un peu plus important. Avec Sly, ça s'est fait à distance, mais le retour a été à la hauteur de la faveur qui nous a faite, et c'était un vrai plaisir. Et puis bah ouais, qu'on parle des chœurs, bah disons que oui, on a invité quoi, je sais pas, on était 35 au Dome Studio, un truc comme ça, à chanter. Puis c'est ça le hardcore aussi, c'est de pouvoir partager des chœurs avec des gens qui nous soutiennent, parce que joindre la parole à l'acte, c'est pas plus mal quoi au final. Et puis on verra s'ils s'en souviennent vendredi des chœurs.
Vendredi, Autant Machine avec le groupe Holding Sand, release party du coup pour vous, et ultime concert pour Holding Sand. Sur le sujet, j'inviterai les gens à passer sur notre site internet, puisqu'on a une interview du groupe disponible, où le groupe s'explique un petit peu sur les raisons de leur split et de leur dernier concert. Et donc pour vous, release party, Autant Machine, ça va se passer comment? Vous êtes sur la version club, je suppose, du Temps Machine, et est-ce que vous allez nous proposer du coup Stigma du début jusqu'à la fin, façon release party, des petits trucs en plus?
Oui, donc on sera au club du Temps Machine, ça c'est sûr. J'ai pas envie de tout dire, mais disons que clairement, vous attendez pas à retrouver Beyond the Sticks comme vous l'avez quitté en décembre 2015. On n'a pas joué depuis décembre 2015 à Tours. Donc oui, forcément, ceux qui sont pas venus nous voir jouer au Mans, pas venus nous voir jouer à Poitiers ou dans les villes aux alentours, il y a peu de chances que... Il y a peu de chances que vous vous y retrouviez sur le coup. Après, dire exactement ce qu'on va jouer, oui, en grande partie, on va jouer Stigma, et voilà. C'est important pour nous de pouvoir le défendre, comme le font aussi certains autres groupes, de pouvoir défendre essentiellement cet album, paraît indispensable. C'est aussi chargé d'émotions, ce concert, parce qu'en plus de... Enfin, on s'attendait pas particulièrement à partager un concert avec un groupe comme Holding Sand qui, bah, du coup, tire sa révérence. On a partagé que 2 dates avec Holding Sand en 6 ans de dates. Et c'est vrai que c'est un groupe qui a quand même marqué son nom dans l'Hexagone, principalement. C'est vrai, je sais qu'ils ont joué aussi un petit peu en Europe, mais on va pas se leurrer. C'est surtout dans l'Hexagone qu'ils ont buzzé. Enfin, c'est un pincement quand même pour Tours, pour la scène post-hardcore, parce que c'est un groupe qui a évolué avec son temps, et c'est un groupe qu'on apprécie, et ça fait toujours bizarre quoi de se dire qu'il y en a qui raccrochent quoi, même s'il faut pouvoir l'accepter. Le problème c'est qu'on voit pas beaucoup de groupes derrière résister. C'est toujours plus difficile de voir des gens arrêter avec une telle qualité. Et surtout que je pense que c'est un groupe qui arrêtera définitivement. Enfin, je pense pas que ça soit un coup de promo du tout. Je connais pas suffisamment bien les gars, mais enfin, pour avoir effectué un peu d'affichage avec Franck, c'était la semaine dernière. C'est vrai qu'on a bien compris que c'était clairement une page qui se tournait pour eux. Et ça fait un pincement parce que bon, c'est vrai que derrière nos gros riffs et nos voix saturées, on a l'air de gros durs, mais bon, c'est jamais plaisant. Surtout en tant qu'organisateur et en tant que militant, de voir un groupe avec 10 ans d'existence tirer sa révérence. Après, il est toujours préférable de le faire en temps et en heure, comme va le faire Slayer. Il vaut mieux pas trop attendre. Par exemple, Judas Priest, par exemple, qu'on ait un guitariste qui nous quitte parce qu'il a Parkinson, ou de se retrouver avec un chanteur d'un autre groupe, comme par exemple AC/DC, parce que notre chanteur n'est clairement plus en état de pouvoir chanter. Il vaut mieux tirer sa révérence à temps plutôt que trop tard. Après, bon, là, on parle de petits groupes, on parle pas forcément de gros groupes, mais bon, c'est toujours un pincement, ça va être particulier, quoi, ce concert. Je pense que de toute façon, ils joueront très probablement plus que nous, et ils le méritent. Et c'est normal, quoi, il n'y a pas de souci. Et puis, bon, c'est une soirée assez éclectique, quoi, pour le coup, parce que ça va être deux genres qui se rapprochent dans le fond, mais bon, dans la forme, ça va être radicalement une autre expression et un autre échange avec le public. D'autant que je pense que le public de Linsen sera épris d'émotions, ça c'est sûr et certain, et nous-mêmes.
C'était important sur cet album, l'ordre des chansons ou pas? Est-ce qu'on peut écouter l'album de façon aléatoire ou est-ce qu'il faut quand même l'écouter dans l'ordre?
Ah, ça, c'est une super question. J'arrive pas à l'écouter dans le désordre. Moi, j'y arrive pas. Pourtant, c'est un album qui se veut à la base moins conceptuel que Leviat Anima. Mais souvent, je dis aux gars, moi, une chanson, quand je la prends en cours sur cet album-là, en tout cas, je n'arrive pas à me rattraper. Un peu comme si je chutais d'une falaise, mais que j'arrivais pas à trouver la prise qui me permettrait de reprendre pied. C'est vraiment l'image que j'ai de cet album, quoi. Ça va vite, ça va vite. Et je pense qu'on peut le scinder en deux, parce que cet album, il va être pressé aussi, enfin est pressé en vinyle. Et clairement, c'est vrai qu'il y a une face A, il y a une face B, où cette introduction au piano sur Danse Macabre. Mais mis à part ça, enfin moi je me vois pas commencer par la face B quand même, on va pas se mentir. Il sortira aussi en cassette, notre label indonésien Diorama, du coup sortira en cassette, et donc de fait oui il y aura aussi une face A, une face B. Mais c'est vrai que non, je m'imagine pas commencer par la face B quand même. Voilà, mais c'est perso.
La pochette, comment est-ce que vous avez bossé sur une pochette aussi riche que ça? C'est un vrai roman déjà, rien que de décrire votre pochette.
Ouais, c'est beau ce que tu dis. L'image a toujours joué un rôle assez important dans le groupe. C'est vrai que, enfin, quitte à avoir un beau produit, autant avoir une image qui invite à ouvrir le livre, là en l'occurrence, à écouter le CD. Enfin, c'est une image que j'ai eue avant même qu'il y ait, je pense, les trois quarts des chansons écrites. Parce qu'il faut savoir que j'écris toujours mes chansons après la musique, en fait. Voilà. Il y en a qui ont leur texte. Moi, j'ai des thématiques, mais je peux pas dire sur quelle chanson je vais poser la thématique. L'image de l'épée était présente, très 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 présente. J'ai eu un espèce de flash autour d'une avaleuse de sabre et une espèce d'image apocalyptique. Alors, c'est vrai qu'on voit un fleuve de flammes qui peut s'apparenter au Styx, une rive en flammes, et l'autre avec plutôt la désertion, la mort, un soleil noir, et puis les entrailles de cette femme qui s'ouvre. Mais alors, on peut voir un aspect cadavérique, mais moi j'y vois pas que ça. Disons que cette femme est emplie de comment dire, de chimères, un peu, enfin, se mêle des intestins qui ressemblent plus à des serpents qu'autre chose, des roses, des racines, enfin voilà, c'est un peu une espèce de, je sais pas, de cadavre exquis. J'aurais voulu avoir une chanson qui s'appelle Cadavre exquis, mais je l'ai pas faite sur cet album. Voilà.
Qui c'est qui s'en est occupé de la réalisation?
C'est Amo, donc c'est un illustrateur français expatrié en Belgique qui a travaillé avec des grands noms, hein, Cult of Luna, Unsane, Foo Fighters. Il a fait beaucoup, il a beaucoup travaillé avec notamment ces groupes-là, Amen Ra, pour faire des affiches de tournées ou de concerts, pas forcément de CD. Il a aussi bossé pour le Hellfest, il bosse pour Marvel aussi. Enfin, il a fait des couvertures de Marvel. Enfin voilà, Daredevil notamment. C'est cool. Enfin, je trouve qu'il a un super grain. Disons que l'idée qu'on lui a proposée, il a tout de suite adhéré. Je pense qu'il a plus adhéré visuellement à notre délire que musicalement. C'est plutôt quelqu'un qui est du milieu du post-hardcore traditionnel. Quand je parle de post-hardcore, je pense plutôt à Cult of Luna, Isis, des groupes dans cette vague-là. Il a tout de suite accroché. C'est vrai que les premières esquisses ont été bluffantes. Enfin, vraiment, autant ça a été long, on va pas se le cacher, il m'en voudra pas si je le dis, autant ça a été bon. C'est vraiment un très beau visuel. Enfin, on en est vraiment fan. Y a pas, on a hâte de le voir sur vinyle. Je ne l'ai pas encore eu en main.
Votre album sera disponible sur des plateformes du genre Deezer, Spotify et compagnie, je suppose?
Oui, et aussi en physique. On a la chance d'avoir re-signé chez Clonosphère. Donc, de fait, d'être redistribué par Season of Mist, bah, le grand public pourra nous retrouver chez tous les disquaires, de la Fnac, je pense, en passant par Gibert et consorts. Après, bon, c'est vrai que moi, je vous inviterais plutôt à passer, si vous y pensez, par l'intermédiaire du groupe en priorité, parce que bon, c'est vrai que, mine de rien, il y a quand même une différence de prix. Je pense plutôt à ceux qui n'ont pas les moyens, parce que voilà, on sait bien que bah, entre acheter un album 15, 17 euros chez un disquaire et l'acheter directement au groupe en concert, c'est pas la même chose. Et puis écoutable sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Et écoutez-le, le téléchargez pas, écoutez-le 20 fois en streaming, il y a de très bonnes plateformes, on fait de très belles choses avec une bonne qualité de son. Si vous voulez à l'heure actuelle le posséder, écoutez-le en streaming si vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Mais pour être comment dire, un actif du milieu indépendant maintenant, j'ai juste envie de vous dire que c'est difficile et qu'on voit de plus en plus de groupes se casser les dents. Voilà, un album, c'est pas juste des paillettes, c'est énormément de travail en amont, c'est énormément d'argent aussi, faut pas se leurrer. Et pour des groupes indépendants, c'est à chaque fois une belle bagnole, hein, neuve, pas une bagnole d'occasion à 2000 euros sur le bon coin. Hein, faut être clair, on va pas annoncer de chiffres. Et ça, là, je parle juste du produit, on parle même pas du reste. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont conscience. Je sais aussi qu'Holding Sen arrête notamment aussi parce qu'on se fait bouffer par le système. On peut essayer de faire sans, mais c'est difficile. C'est difficile d'autant plus quand on est plutôt dans des styles qui se veulent pas assez underground. Parce que, mine de rien, dans nos styles, il y a aussi il y a des trucs plus underground que l'underground, quoi, et plus DIY que le DIY. Et nous, on est un peu confrontés à ça. On va dire qu'on est indépendant, mais pas assez pour certains. Et c'est toujours plus difficile, c'est vrai, de lutter avec ce genre d'armes quand on n'est pas assez indépendant pour certains et quand on l'est trop pour d'autres. Voilà. Mais la réalité, c'est que les trop indépendants et les pas assez, on mange tous.
Alors, sans rentrer tant que ça dans le cœur de l'album, je vais te proposer une sorte de portrait chinois de certains titres. C'est-à-dire que si je te demande Poison Ivy, si c'était un bâtiment, ce serait quoi comme genre de bâtiment?
Alors c'est une super question. Alors Poison Ivy, déjà, c'est une chanson qui traite un peu la déperdition de la nature. Je trouve que voilà, ceux qui connaissent Batman forcément connaissent l'empoisonneuse, donc Poison Ivy. Voilà, c'était un clin d'œil, parce qu'on peut le dire Poison Four aussi, et pas Ivy, parce que c'est écrit comme le chiffre romain, et c'est complètement volontaire. Si c'était un bâtiment, je dirais un château d'eau, abandonné.
Si DTNT était un paysage?
Alors, DTNT, c'est une chanson. Littéralement, le sigle veut dire les morts ne racontent pas d'histoire. Donc, si c'était un paysage, bah, peut-être quelque chose d'encore plus désolant que les tranchées, où il n'y aurait vraiment pas eu grand monde pour raconter quoi que ce soit. Donc peut-être Hiroshima, même si ça traite pas du tout la même chose. En tout cas, une terre désolée où il ne resterait plus rien derrière pour qu'il n'y ait plus personne pour raconter quoi que ce soit. Comme une ville mise à sac, quoi, où il n'y aurait plus un témoin pour pouvoir échanger sur quoi que ce soit.
Et si Check Fate était une plante, ce serait quoi comme genre de plante?
Alors, Check Fate, c'est la première chanson qu'on a écrite, c'est aussi la dernière de l'album. Si c'était une plante, pour laisser une trace, je dirais une ronce. Voilà.
Vous avez choisi Danse Macabre comme premier clip, qui est un vrai clip scénarisé. Comment ça s'est passé, ce tournage-là?
Ça s'est passé très vite. Bon, il y a eu un gros travail hein, de fond avec Sébastien Vallée, le réalisateur du clip, qui n'est pas du tout issu du milieu métal, hardcore, musique extrême. Faut le savoir. Le titre lui a parlé. L'esprit lui a parlé malgré la violence parce qu'il évoquait. Disons qu'au début, on n'a pas voulu partir sur quelque chose qui puisse s'apparenter clairement à ce qu'est une danse macabre, c'est-à-dire l'agonie du pendu. On trouvait ça trop téléphoné. Et finalement, Sébastien nous a dit, faites-le, parce que c'est vraiment taillé pour. Alors, on a dit, ok, c'est marrant, parce que on pensait que c'était plutôt lui qui chercherait à mettre de l'eau dans notre vin, à adoucir la chose, et pas du tout. Quoique, parce que, disons qu'on a suggéré énormément de choses dans ce clip. Je pense que le téléspectateur peut vraiment s'approprier la vision du clip à sa manière. Les choses sont pas bridées. Ça, c'est hyper important pour nous. On ne tient pas à figer les choses. Je suis même rendu compte à la fin que ce clip pouvait appeler une suite et qu'on s'était pas du tout préparé à ça, en fait. Parce que, on a eu des coups de téléphone, non mais c'est vrai, hein, des messages de copains qui nous posaient des questions. Mais l'enfant, il devient quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais le pendu, il est mort ou il est pas mort? Et c'est des choses auxquelles on s'était pas préparé parce que on voulait quelque chose de qualité, mais on s'était pas dit à un moment donné qu'on pourrait emmener sur 3 minutes 3 de clip les gens aussi loin. Même des gens qui n'aiment pas notre musique, ma mère par exemple, m'a dit, je l'ai regardé et j'ai pris une belle claque visuelle, quoi. C'est une histoire. Dis donc, c'est une histoire un peu post-apocalyptique dans un monde non défini où des personnes, moi que j'appelle des désœuvrés, en fait, se retrouvent plus ou moins en proie à un pouvoir autoritaire qui leur fait faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire à la base, mais qui leur permet d'exprimer des choses qu'ils ne peuvent pas exprimer, je dirais, sur des temps lambda. Après, le reste, c'est de la libre interprétation, clairement. Mais on vit dans une société violente, de plus en plus violente. On n'a pas voulu trop en montrer, mais on suffisamment pour que les gens prennent conscience un petit peu de ce qui nous entoure. On vit dans une société à l'agonie. Et j'ai l'impression que le figurant qui est le pendu dans l'histoire pourrait interpréter notre société, clairement. Perpier, qui est en proie à diverses choses, barbares, religieuses, économiques, sociétales, tout un tas de choses qui nous mettent à mal. Voilà, pour faire court.
On va parler accessoires. Je vais te proposer 5 accessoires et tu peux choisir un de ces 5 accessoires. Tu peux choisir parmi les lunettes de Clark Kent, le panier du petit chaperon rouge, les chaussures de Marty McFly, le violon de Sherlock Holmes ou le chapeau de Indiana Jones. Tu prends quoi comme accessoire?
Oh purée, moi je suis un grand fan des années 80, alors. Moi, à titre personnel, je prendrais les chaussures de Marty McFly, parce que c'est toute une histoire, ce film déjà, ce personnage aussi, parce que, enfin, il a quand même pas une histoire simple, quelqu'un qui souffre énormément de sa maladie. Et ouais, je pense que pour mon côté rétro, et puis parce qu'on ne sait pas ce qu'on fera demain aussi avec le groupe. Je pense que respectivement, on prendrait un peu ces chaussures. Parce que l'épisode 3, c'est pas dit qu'on fasse quelque chose de plus old school finalement que dans l'épisode 2, quoi. Et voilà, je pense que ouais, je m'arrêterai sur ça.
Un mot que tu souhaiterais ajouter pour conclure?
Tout simplement, toujours inviter le public à se bouger pour les groupes locaux, pour votre scène. On a de la chance à Tours, c'est d'avoir quand même pas mal de concerts. Certes, beaucoup en café, ce qui peut déplaire à certains. Et on a des salles aussi qui se mouillent pas, hein, il faut le dire. Là, pour le coup, le temps machine se mouille vendredi. Mais soyez présents, bougez-vous. Parce que si on veut donner envie à des salles comme le temps machine de prendre plus de risques pour des musiques, je dirais, malheureusement trop souvent reléguées au second plan, bougez-vous. Bougez-vous pour vos assos, bougez-vous pour vos groupes locaux. Pas tout le temps, mais si vous pouvez le faire, faites-le. Parce que malheureusement, voilà, Billon, ça sera peut-être le prochain Holding Sand, ça sera peut-être un autre groupe local, de renom, qui se pourrait se retrouver dans cette situation. Et je le souhaite à personne, parce que en tant qu'artiste, j'estime que quand on tourne une page, c'est pas qu'on n'a plus rien à raconter, c'est qu'on va la raconter sur un autre format. Voilà, je sais que Clément écrit beaucoup, je pense que le fait d'écrire beaucoup a peut-être aussi accentué son choix d'arrêter Holding Sand. Mais voilà, moi, je vous inviterai juste à continuer à soutenir ardemment la musique indépendante, extrême qui plus est, et votre scène locale, tout simplement.
Merci.
De rien, merci à toi, Xavier.